Mon invité est essayiste, ancien conseiller à Matignon et auteur du rapport La fabrique de l'islamisme pour l'Institut Montaigne. Bonjour Hakim El Karaoui.
Bonjour David Bélien.
Mathieu. David Bélien, je vous aurais pas corrigé si vous m'aviez appelé Clément ou Jean-Pierre ou Jean-Claude, mais là c'est un homme politique, je suis obligé de vous corriger. Tentons Hakim El Karaoui autant que possible d'être constructif sur ces dossiers extrêmement sensibles. La surenchère diplomatique, si l'on peut encore parler de diplomatie. Le bras de fer franco-turc, vous connaissez le profil d'Erdogan. Il parle à sa population, aux musulmans du monde. Le risque pour nous, c'est que c'est une voix qui s'élève contre le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut trouver des oreilles attentives? Est-ce qu'Erdogan parle aux musulmans en France?
D'abord, il faut déconstruire son discours, comprendre le contexte. Le contexte économique de la Turquie est très difficile. La crise du Covid, mais avant la crise du Covid, la dévaluation de la monnaie, l'hyperinflation, la hausse du chômage, on est à 14 ou 15 points de chômage. La deuxième chose, c'est qu'il est prisonnier d'une coalition politique. Il a besoin d'ultranationalistes. Les ultranationalistes turcs, qu'est-ce qu'ils détestent? Les Kurdes, il est présent au Kurdistan, Chypre, l'Arménie et la Grèce. Donc il a ouvert des fronts partout où politiquement il en avait besoin. Ensuite, il écrit une histoire. Il faut pas qu'on prenne pour argent comptant son histoire. Il écrit deux histoires même. L'histoire du retour du sultan, le sultan ottoman qui va régner sur la Méditerranée et le Proche-Orient. Et l'histoire du calife. Depuis la fin de Daesh, il n'y a plus de calife. Donc il se réinstalle dans cette idée qu'il va être le patron des musulmans.
De la Oumma, la communauté musulmane mondiale. Mais si je vous posais la question ainsi, et nous le développons dans nos journaux sur Europe 1 aujourd'hui, l'alerte terrorisme est au plus haut. Est-ce qu'Erdogan, avec ce discours-là, avec cette façon, est-ce qu'Erdogan, ce n'est pas celui qui met une cible sur le dos des Français?
Franchement, c'est pas ce que font les Turcs. De ce point de vue-là, je suis plus inquiet de la réaction du Premier ministre du Pakistan, qui a condamné très fermement les caricatures
en disant qu'Emmanuel Macron attaque l'islam.
Voilà. Et le Pakistan, il y a des madrassas, il y a tout un écosystème djihadiste beaucoup plus organisé qu'en Turquie. Les Turcs font de la politique. Au Pakistan, je parle pas du gouvernement pakistanais, je parle d'individus pakistanais. On a des gens très dangereux. D'ailleurs, le terroriste d'il y a trois semaines était pakistanais et arrivé en France de fraîche date. Donc non, j'ai pas une grande inquiétude sur le plan de la sécurité liée aux propos d'Erdogan. Par contre, ça pose évidemment des grands problèmes politiques et diplomatiques.
Parce que c'est vrai, Hakim El Karaoui, si on met le personnage d'Erdogan de côté, il y a ces appels au boycott, cette réaction du monde musulman. Vous parliez du Pakistan, on a vu le ministre des Affaires étrangères marocain aussi. Ce que porte la France, la laïcité, le droit au blasphème, la culture de la caricature et de la liberté d'expression. Nous, on trouve ça évident ici. C'est pas forcément le cas en dehors de nos frontières.
Oui, dans le monde musulman, mais d'ailleurs pas seulement.
Je pensais pas que au monde musulman.
Vous avez rappelé que j'étais conseiller à Matignon en 2004, au moment de la loi sur le voile. Je me souviens de Dominique de Villepin disant « les Américains ne nous comprennent pas ». D'ailleurs, quand on voit la presse aujourd'hui américaine, le New York Times, le Washington Post, ils comprennent pas le modèle français d'intégration, le modèle français de laïcité. Donc, on a un gros travail de pédagogie à faire. Il faut qu'on explique ce qu'est pour nous la liberté d'expression et au-delà de la liberté d'expression, la liberté, notre relation à la religion, qui est une affaire privée, avec une séparation entre l'Église et l'État, et la liberté de blasphème et de caricature.
Même chez nos partenaires, le soutien est là, sur la scène de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut obtenir une décision de sanction à 27 contre la Turquie? Ça, c'est moins évident.
C'est moins évident, c'est pas forcément sûr qu'on en ait besoin. À ce stade, il y a eu tous les Européens ces derniers jours se sont ralliés à la France pour condamner les propos du président turc. C'est déjà pas mal.
On va prendre ce qu'il y a à prendre. Puisqu'on parle d'Europe, Hakim El Karaoui, je voudrais vous faire écouter un extrait issu de la télévision suédoise. C'est l'ambassadeur de France en Suède, la voix de la France en Suède. Il répond aux questions d'un journaliste suédois. Écoutez.
La France a rappelé son ambassadeur en Turquie. Y a-t-il un risque que cela se transforme en conflit entre la France et le monde musulman?
Alors d'abord, la France est un pays musulman. L'islam est la deuxième religion du pays. Il y a entre 4 et 8 millions de Français qui ont un héritage culturel musulman.
On peut dire ça aussi simplement que ça? La France est un pays musulman?
Écoutez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'islam, une religion française ». Alors c'est dans l'autre sens, c'est pas la France qui est un pays musulman, c'est l'islam qui est une religion française. Il y a à peu près 6 millions de Français qui sont de culture ou de religion musulmane, c'est effectivement la deuxième religion du pays. L'islam est devenu une religion française, et on parle, et c'est normal, de tout ce qui va pas. il faut aussi qu'on parle de tout ce qui va bien, de temps en temps.
Bien sûr, parce qu'il faut, c'est pour ça que je vous posais la question. Il faut peut-être l'intégrer. Gérald Darmanin, dans Libération ce matin, le dit, une très grande partie des musulmans de France sont les premiers à demander des actes forts de la part de l'État français.
Bah, la cible, la première cible des islamistes, notamment pour faire changer la façon d'être musulman, ce sont les musulmans. À qui on demande, sur lesquels il y a une pression idéologique et religieuse qui est très forte. La deuxième chose, c'est que les musulmans ont pu construire des mosquées, ont pu s'installer dans le paysage d'une façon finalement assez sereine. La troisième chose, je voudrais le rappeler, la violence des attaques. Depuis 2012, ça a commencé avant, mais depuis 2012, et puis 2015, Charlie, l'hypercachère, le Bataclan, Nice, la décapitation d'un professeur devant son école. La société tient. Et les Français de confession musulmane le savent. Ils savent que il se serait passé la même chose au Maghreb, par exemple, avec des attentats commis par des gens d'origine étrangère. Il y aurait eu très, très, très probablement des représailles physiques très violentes. La société française tient. Il faut le rappeler, c'est aussi une bonne nouvelle.
Vous voulez le souligner, la société française tient. C'est important de le rappeler. Il y a eu le discours d'Emmanuel Macron début octobre au Mureaux sur le séparatisme. Vous aviez réagi à Hakim El Karoui à ce moment-là. Tout ne va pas se faire en 6 mois. Déjà, pour avancer, le chantier numéro 1, c'est quoi? C'est le financement de l'islam de France?
Pour moi, c'est le chantier le plus discret, le plus important. Le plus important parce que c'est comme ça qu'on va rompre avec les ingérences étrangères. Le président de la République a dit qu'il fallait arrêter l'islam consulaire. Quand on voit ce qui se passe avec la Turquie, je pense qu'on a la preuve qu'il faut arrêter effectivement que la Turquie envoie 150 imams chaque année pour prêcher.
En préparant ce matin, j'ai découvert ça. 151 imams issus de Turquie, dont 65% sont des fonctionnaires turcs.
Voilà, et on les appelle des assistants sociaux. Pour mémoire, il y a 30 Marocains et 120 Algériens. Donc, il faut rompre avec ces envois d'imams. C'est une forme d'ingérence. Le système des instituteurs, vous savez, qui viennent dans les écoles apprendre la langue d'origine, a aussi été réformé pour être contrôlé. Mais derrière ça, si on n'a pas un financement endogène de l'islam et du culte, on aura toujours la tentation d'aller chercher de l'argent à l'étranger. Donc, le travail qui est fait, notamment avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Parce que le pèlerinage est un des 5 piliers de l'islam. Et ne vont au pèlerinage que des musulmans. C'est la différence, par exemple, avec la viande halal qui peut être consommée par des non-musulmans. L'idée, c'est quoi? C'est de prélever une petite redevance, de rendre un service aux fidèles et d'être rémunéré avec une petite redevance et que cette petite redevance soit réutilisée, réinvestie pour, par exemple, la formation des imams en France. Il y a plein d'argent aujourd'hui qui circule au nom de l'islam en France. L'essentiel, d'ailleurs, ce sont les dons. C'est beaucoup plus important que l'argent étranger. Mais ces dons, il faut les capter pour des causes nationales et pas seulement pour construire des mosquées locales.
Vous avez précisé hein, la nuance, on parle du pèlerinage. À une époque, vous parliez de taxes sur les produits halal, c'était la mauvaise cible?
Alors, j'ai jamais parlé de taxes parce que la taxe, c'est un impôt de l'État. Il ne s'agit pas d'avoir un financement par l'État. J'ai toujours parlé de redevance. La redevance, c'est la redevance qu'il y a, par exemple, sur la viande cachère. Le consistoire central du judaïsme français se finance à moitié par un service qui rend autour du cachère. On peut imaginer la même chose autour du halal. C'est plus compliqué que le pèlerinage. Donc, on commence par le pèlerinage. Si ça marche, l'organisation, la MIF que j'ai créée, sera visible de la part des fidèles. Et pour la première fois, ils verront une organisation qui travaille pour l'ensemble de la collectivité.
Sur cette question, on a tendance à oublier ces dernières semaines le volet géographique et social, finalement, dans la question du séparatisme. Et je rappelle l'apartheid social, territorial et ethnique dont parlait Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre. Votre dernier rapport pour l'Institut Montaigne, le titre est tout un programme. Les quartiers pauvres ont un avenir extrêmement positif. D'abord, ces quartiers, ces cités, ces banlieues dont on parle, ils apportent à la nation, ils contribuent.
Oui, tout ne va pas si mal. Si vous prenez la création d'emplois depuis 10 ans, la Seine-Saint-Denis a contribué à 29% de la création d'emplois en France. Personne ne sait. Si vous regardez le financement de la protection sociale, les quartiers pauvres des grandes villes sont en fait peuplés de gens jeunes et de très peu de retraités. Il se trouve que la protection sociale va aux 2/3 aux retraités. Et donc, on a un autre élément inattendu, c'est que la Seine-Saint-Denis est le 8e contributeur au financement de la protection sociale et, tenez-vous bien, le dernier receveur. Alors que c'est le département le plus jeune de France.
Il y a beaucoup d'idées reçues. Hein.
Beaucoup. Ce qu'on voit pas aussi, c'est que des quartiers pauvres urbains, il y en a évidemment dans les grandes métropoles, il y en a aussi dans les petites villes. Et d'une certaine manière, c'est plus dur dans les petites villes que dans les grandes métropoles. Parce que dans les grandes métropoles, vous êtes à proximité de la richesse. vous êtes aspiré par l'extraordinaire dynamisme, notamment de l'agglomération parisienne. Quand vous êtes à Montauban, à Pontarlier ou à Béziers, c'est beaucoup plus difficile.
Et vous dites qu'il faut arrêter d'investir dans la pierre et plutôt investir dans les gens. Et pas tant en question d'argent public hein, dans ce que vous dites.
Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'investir dans la pierre. Je dis qu'il faut investir plus dans les habitants et pas seulement dans les bâtiments.
Et y croire un peu aussi.
Il y a beaucoup moins de fonctionnaires par habitant dans les quartiers pauvres que par exemple dans ce qu'on appelle la diagonale du vide entre l'Ariège et les Ardennes. Et puis, on manque aussi de technologie. On peut pas enseigner de la même manière à une classe où 8 enfants sur 10 ne parlent pas français à la maison qu'à une classe où tout le monde parle français à la maison. Et puis la dernière chose qui est très importante, c'est que on parle de séparatisme, on parle de communautarisme. Entre 82 et 2015, la proportion d'immigrés en Seine-Saint-Denis est passée de 15 à 30%. Dans le Val-de-Marne, elle est passée de 13 à 21%. En France, elle est passée de 7,5 à 9,2. Donc, proportion d'immigrés en France a très peu augmenté. Par contre, tous les nouveaux immigrés sont venus en Île-de-France. Et évidemment, si on concentre toute la nouvelle immigration au même endroit, bah après on a des difficultés d'intégration.
La question géographique et sociale. Hakim El Karoui, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous présidez, je le rappelle, l'Association musulmane pour l'islam de France, parmi les titres qui sont les vôtres. Et j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site de l'Institut Montaigne, parce qu'en fait tous vos rapports dont on a parlé ce matin sont en accès libre, il suffit de les télécharger. Et c'est un PDF, c'est extrêmement simple. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions. Je pense que nos auditeurs ont appris des choses et c'est bien l'essentiel.
Merci
Hakim El Karoui, il est 8h27.